En même temps, concernant les Lascar, on est obligé de se... Enfin, à chaque fois que... Parce qu'on pensait éventuellement projeter une fois de plus les Lascar. Je dis une fois de plus. Les Lascar, moi, personnellement, c'est... Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, c'est ma référence intellectuelle. C'est vraiment les Lascar, quoi. Donc, on a projeté au moins 4 fois, non au moins, j'ai l'impression, hein, ce documentaire. Et on distribuait les tracts en plus et tout pour que les gens ils aient un petit souvenir. Mais la question que les gens nous posaient chaque fois, c'est que sont-ils devenus ? Et on n'en sait rien, on n'en sait rien du tout. Et on est obligé de se demander dans quelle mesure, malgré leur... Enfin, ils avaient des tracts « on n'est pas plus bête que vous, on n'ira pas à l'usine ». Ce qui n'a pas empêché des... J'avais vu ça projeté devant des profs de fac qui disaient « non, mais il ne faut pas les mépriser si les ouvriers, s'ils veulent aller à l'usine, il faut les laisser », alors qu'ils ne savent pas comment dire. Et pendant tout le documentaire, ils sont devant une affiche où il y a marqué « on ne veut pas aller à l'usine, on n'ira pas à l'usine, il n'est pas question qu'on aille à l'usine ». Et eux, ils ont conclu qu'ils veulent aller à l'usine. Je ne sais pas en quelle langue faudrait qu'ils le disent, mais quelque part, bah, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Bah, on n'en sait rien. Et tu es obligé de te demander si les pauvres n'ont pas été, en effet, rattrapés par... ce que la société a de plus ignoble, en effet, de qu'ils soient allés réellement à l'usine ou au chantier ou pas mieux, et est-ce qu'ils ont pu échapper à cette horreur qu'on leur destinait.
En tout cas, il mettait le doigt sur quelque chose d'essentiel. Avant de venir à l'émission, on parlait de la représentation des gens qui étaient présents sur les plateaux de télévision pour témoigner, tout simplement, enfin, pour participer. Et je disais que il n'y avait jamais d'ouvriers. Par contre, on pouvait rencontrer d'autres catégories défavorisées de la société. Hein. On peut rencontrer parfois des anciens délinquants, à condition qu'ils aient quand même écrit un livre. Hein. Évidemment, on peut écouter des prostituées, on peut écouter pas mal de minorités qui s'expriment, etc. Quelque part, ça veut dire quoi ?
Excuse-moi, là où je m'inscris un peu en faux dans ce que tu dis, c'est que les gens en question ne sont censés que témoigner de leur vécu. Pour faire un discours, c'est pas eux qu'on va aller chercher.
Ben, c'est ce que je m'apprêtais à dire, exactement, D'accord. Donc tu as raison. Et ça veut dire quoi ? Donc, en plus de cet aspect-là, ça veut dire aussi, ça retranscrit cette réalité-là, c'est quelqu'un qui est attelé au travail, à la chaîne, à l'usine, etc. Il n'a rien à dire de sa vie. Il n'a rien à exprimer. Hein. J'avais parlé d'une étude, c'était 0% d'ouvriers présents sur les plateaux télé pour témoigner de quoi que ce soit. Le seul moment où ils peuvent...
Mais parlons pas d'exprimer des idées sur quoi que ce soit.
Oui, bien sûr, c'est ce que je... Oui, bien sûr, c'est lorsqu'on les interroge, c'est pour qu'ils donnent un témoignage sur leurs conditions de vie, par exemple, sur une grève, mais en tant que personne, il n'existe pas. D'où le livre de Jean-Pierre Levaré qu'on avait cité déjà dans l'émission qui s'appelle « Classe fantôme » à propos de la classe ouvrière. Mais ça indique quoi aussi cette non-visibilité à travers les médias des ouvriers, des ouvrières ? Ça indique tout simplement aussi effectivement que c'est la catégorie de la population qui a été complètement dépossédée de tous les aspects de sa vie. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'existence, ils n'ont plus de visibilité. Et c'est pour ça que ça me paraissait important tout à l'heure dans ce que j'exprimais d'interroger ceux et celles qui se projettent dans une société future, qui soit socialiste, libertaire, etc., et qui ne s'interrogent pas sur le fait qu'eux-mêmes se projettent dans cette société avec les privilèges dont ils jouissent dans la société qu'ils prétendent combattre aujourd'hui. Et je pense que ça doit interroger si le but final, c'est l'émancipation des individus. Faut au moins se poser cette question-là. Et là, on est complètement dans le débat qu'on a ouvert aujourd'hui sur l'aliénation, à savoir que je pense que beaucoup de gens se projettent dans une autre société en maintenant leur situation de privilégiés et en entendant maintenir dans l'aliénation d'autres personnes qui le sont aujourd'hui. Et je pense que voilà, faut se questionner un petit peu sur le fait soit se demander est-ce qu'on veut réellement changer de société ou pas, ou est-ce que on veut reproduire dans un idéal ce qu'on vit aujourd'hui. Enfin, je pense que c'est une vraie interrogation pour ma part. Voilà.
Les Lascars s'interrogeaient pas, ils voulaient pas, c'est tout. Ceux qui disent qu'ils veulent continuer, c'est ceux qui sont déjà objectivement des privilégiés, qui sont pas dans cette situation et qui veulent continuer à jouer de leurs privilèges.
Après, il y a un truc terrible. Tout. Moi, je sais que quand j'ai commencé à bosser à 18 ans, ça n'a pas duré longtemps, mais pendant quelques mois, j'ai travaillé à la chaîne. Et le souvenir que j'en ai, très vif, très fort, c'est que c'est une, pour le coup, une aliénation quotidienne terrible. Je veux dire, tu sais plus comment tu t'appelles. Je veux dire, tu as l'impression de faire corps avec la machine plus que corps avec toi-même. Enfin, c'est un truc absolument terrifiant. Voilà, c'est un peu comme un laminage qui est fait au quotidien. J'ai un très bon copain, celui dont on parlait tout à l'heure, qui compense un certain nombre de manques justement par la consommation de produits, me disait que il avait ressenti comme quelque chose d'assez cruel de se rendre compte que laminé complètement par le boulot, petit à petit, il passait ses samedis à dormir, puis ses dimanches, puis toutes ses vacances, parce que épuisé, ce laminage quotidien, je pense qu'il faut en être conscient. Et c'est la véritable aliénation, je pense, elle est là, au sens de la dépossession des individus, de la négation même de ce qu'est la vie. Et l'autre forme d'aliénation qui est souvent exprimée, mais qui, à mon avis, le sujet n'est pas vraiment là, c'est la récompense de la première aliénation par le travail, qui est la consommation.
Oui, c'est ce que disait d'ailleurs un copain qui a en effet écrit un livre, un copain que je connais depuis très très longtemps. Je le connais depuis qu'il était ado, et on était tous très surpris qu'il se mette à travailler en usine, parce que c'était quelqu'un qui était très, très dynamique, très créatif. Le fait est qu'il disait qu'il avait peur de la précarité, ce qui est quand même pas, on va pas lui jeter la pierre pour ça. Il n'y avait pas moyen de travailler à mi-temps, il fallait travailler soit à temps complet, soit tu n'avais pas de boulot du tout, et il avait vraiment peur de la précarité. Donc il disait, puisque effectivement je gagne plus de sous que j'en aurais besoin, qui se consolait par la consommation, en effet, de cette situation. Mais en effet, ce qui fait que des gens vont travailler, c'est que surtout à l'heure actuelle, malgré tout, c'est le logement le principal problème. Enfin, c'est pour ça que c'est difficile de faire la grève aussi. C'est que tu peux te dire que tu vas te passer d'un ensemble canapé fauteuil ou même de vacances, mais pas d'un logement. Donc c'est par ça aussi quand même que les gens ils sont tenus. S'ils veulent avoir un logement qui est pas carrément un taudis, ou même d'ailleurs même un taudis, c'est compliqué. C'est pas évident. Il y a même une part de bol quand tu arrives à avoir même un taudis quand t'es au RSA. C'est tellement vrai que la CAF, elle sait que tu peux pas vivre avec le RSA et même avec les allocations logement. Enfin, les cafards le disaient souvent. Il faut vraiment, c'est que tu truandes d'une manière ou d'une autre. Enfin, je dis pas qu'il y a pas des exceptions, mais c'est compliqué, si tu veux, non? Oui. Oui, donc voilà. Non, mais c'est vraiment compliqué, quoi. Si tu veux. Non, mais il y a des gens qui y arrivent, mais t'as déjà du bol si t'arrives à trouver même un taudis à l'heure actuelle. C'est depuis qu'en plus il faut, on peut même pas vendre on peut même pas louer des apparts qui n'ont pas un minimum. Enfin, les marchands de sommeil qu'on pointe du doigt à juste titre. Ben malgré tout, ils louent des appartements insalubres à des gens. Est-ce que c'est ça ou rien, quoi? Et que tu refuses cette situation, c'est pas... Enfin, je veux dire, on peut pas jeter la pierre à des gens qui ont peur de se retrouver dans la précarité. Puisque de toute façon, le côté « je vais faire un métier agréable et puis bien payé », c'est quand même réservé aux gosses de la bourgeoisie, hein, sauf exception, non?
Voilà. Il est 13h, ouais. On va même passer, on va donc arrêter là pour aujourd'hui. Bon, évidemment, c'est un sujet inépuisable, tant il touche tout simplement notre vie, notre quotidien, à toutes et tous. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, ça sera à 11h, l'émission donc lundi matin, si tout va bien, bah, on sera là, l'équipe. Ça va continuer en chanson. Tout de suite avec Nef Tcherlian qui interprète Prévert, Le soleil brille. On l'écoute tout de suite, rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous aussi, j'ai oublié un truc important pendant l'agenda, c'est qu'on vous invite à venir nous rencontrer le dimanche 11 juin à la librairie Publico pour la projection du film, donc Pride. Donc un film qui met en scène un événement, un fait réel survenu donc en Angleterre, où un groupe de gays et lesbiennes pendant la grande grève des mineurs sous Thatcher, eh bien se propose d'aider les mineurs. Et c'est sur toute cette rencontre entre donc ce groupe de gays et lesbiennes, cette rencontre avec les mineurs entre deux milieux donc qui a priori n'étaient pas vraiment faits pour se rencontrer. Mais cette rencontre a lieu et c'est l'histoire de cette rencontre là, et c'est un très très beau film. Donc vous êtes invités, ça sera le 11 mai dimanche prochain, 16h, accueil à partir de 15h, donc projection du film, l'entrée sera libre et après bien sûr on pourra en débattre. Voilà, quant à nous, émission lundi matin, groupe libertaire d'Ivry, vous pouvez nous retrouver sur le site anarchiste.info, podcast, streaming, articles notamment, et toutes les émissions archivées, bien sûr, de lundi matin. Au revoir, à la semaine prochaine.
Le soleil brille pour tout le monde, il ne brille pas. Dans les prisons, il ne brille pas. Pour ceux qui travaillent dans la mine, pour ceux qui écaillent le poisson, ceux qui mangent la mauvaise viande, ceux qui fabriquent les épingles à cheveux, ceux qui soufflent vide les bouteilles que d'autres boiront pleines, ceux qui coupent le pain avec leurs couteaux, ceux qui passent leurs vacances dans les usines, ceux qui ne savent pas ce qu'il faut dire, traient les vaches et ne boivent pas le lait. Ceux qu'on n'endort pas chez le dentiste, ceux qui crachent leurs poumons dans le métro. Ceux qui fabriquent dans les caves les stylos avec lesquels d'autres écriront en plein air que tout va pour le mieux. Ceux qui en ont trop à dire pour pouvoir le dire. Ceux qui ont du travail, ceux qui n'en ont pas. Ceux qui en cherchent, ceux qui n'en cherchent pas. Ceux qui donnent à boire aux chevaux, ceux qui regardent leurs chiens mourir, ceux qui ont le pain quotidien relativement hebdomadaire, ceux qui l'hiver se chauffent dans les églises, ceux que le Suisse envoie se chauffer dehors, ceux qui croupissent, ceux qui voudraient manger pour vivre, ceux qui voyagent sous les roues, ceux qui regardent la Seine couler, ceux qu'on engage, qu'on remercie, qu'on augmente, qu'on diminue, qu'on manipule, qu'on fout, qu'on assomme. Ceux dont on prend les empreintes. Ceux qu'on fait sortir des rangs. Au hasard. Et qu'on fusille. Ceux qu'on fait défiler devant l'arc. Ceux qui ne savent pas se tenir dans le monde entier. Ceux qui n'ont jamais vu la mer. Ceux qui sentent le lin parce qu'ils travaillent le lin. Ceux qui n'ont pas l'eau courante. Ceux qui sont voués au bleu horizon. Ceux qui jettent le sel sur la neige moyennant un salaire absolument dérisoire. Ceux qui vieillissent plus vite que les autres. Ceux qui ne se sont pas baissés pour ramasser l'épingle. Ceux qui crèvent d'ennui le dimanche après-midi. Ils voient venir le lundi et le mardi et le mercredi et le jeudi et le vendredi et le samedi et le dimanche après-midi. avez l'oubli trop facile et votre colère tombe vite. Vous êtes vivant, vous aimez rire, le bourgeois raconte qu'il aime rire, alors vous riez avec lui. Pourtant son rire n'est pas le même que le vôtre. Ce n'est pas un véritable rire, l'homme rit, le bourgeois ricane. Écoutez, en 1871, les communards sont tombés par milliers. Monsieur Thiers souriait, les femmes du monde souriaient. Elles se payaient une pinte de bon sang. Pendant la fameuse glorieuse dernière, avant-dernière grande guerre, le président Poincaré rigolait dans les cimetières. Oh, pas aux éclats naturellement, un petit rire discret, un petit gloussement, un rire d'homme du monde, un joyeux rire d'outre-tombe. Depuis le mois de février, on a tué en France beaucoup d'ouvriers. Et le président Doumergue n'a cessé de sourire, c'est une habitude, un tic. Daimler aussi quelquefois sourit, Tardieu sourit, Hitler aussi. C'est le sourire du capital, le sourire de la bourgeoisie, c'est le rire de la vache qui rit. Un rire aimable, un sourire impitoyable. Excusez-moi, je regrette, dans le fond je vous aime bien. Et si je donne l'ordre de vous abattre comme des chiens, c'est parce que c'est la coutume. Je suis là pour ça, je ne peux rien. C'est la coutume, il y a trop de travailleurs dans le monde. Il faut les expédier dans l'autre. Trop de travailleurs, trop de café, trop de sardines, trop de betteraves, trop de fraises de bois, trop d'instituteurs. À la mer, le café, au vestiaire, la canne à sucre, à l'égout, le beurre, aux chiottes, les primeurs. Il ne faut pas rire avec ces gens-là. Il ne faut pas rire avec ces gens-là.
Arthur, vous qui réalisez les rêves, je ne vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de mes petits futurs, l'angoisse vous de la preuve. La rage.
Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, qui reçoit aujourd'hui notre camarade et ami Samuel, qui a commis, dans sa jeunesse, il y a un an à peu près, qui a commis un Master 2 intitulé « Histoire du traitement médiatique des Black Blocs en France ». Alors, tu l'as soutenu ou pas ?
Ouais, je l'ai soutenu en septembre.
Ça s'est bien passé ?
Parfait, parfait. J'ai eu des très bons jurys, il faut dire. J'ai eu cette chance.
Combien t'as eu ? Un sur 20 ?
Non, j'ai eu 16.
Bon. 16, c'est bon ? C'est quoi, c'est mention ?
C'est mention très bien.
Oh la vache ! Il faut dire qu'on ne reçoit pas n'importe qui à Radio quartier.
Oui, c'est vrai.
Hein ? T'es d'accord avec moi, Mariana ?
C'est parce que les Black Blocs m'intéressaient. Et parce que je connais bien la façon dont travaille Samuel, que j'ai insisté pour qu'il soit à l'antenne. Donc je suis très contente de mon coup cette fois-ci, encore.
Bravo, bravo Mariama. Alors, Samuel, est-ce que tu veux bien nous dire en deux mots ce que tu veux, hein, tu n'es pas obligé de dire tout, ton petit parcours de vie et ton adhésion parmi nous, à la Fédération anarchiste, au groupe Plus Michel.
Bon ben, ce qui est l'avantage, c'est que ça va être très long parce que nous on n'a passé que 25 ans, donc j'ai un parcours de vie incroyable. Oh,
ben, 25 ans.
Mais j'ai commencé loin de Paris, j'étais dans le sud. J'ai fait une licence de droit, puis le droit ça m'a pas plu, alors je suis allé en histoire. C'est là que j'ai rencontré d'abord des communistes et que j'ai eu une première adhésion d'abord au Parti communiste. Puis bon, après je suis rentré à la Fédération anarchiste en ayant suivi mon chemin, en dérivant comme ça vers l'anarchisme progressivement. Et donc aussi, mon sujet de mémoire vient de là aussi, quoi. C'est un intérêt qui s'est poursuivi.
C'est quand même extraordinaire que tu aies réussi à la Sorbonne à imposer un sujet de cette ampleur. Et aussi particulier, si je puis me permettre.
Ça, il faut remercier quand même ma directrice de recherche. Donc, je pense que je peux dire son nom, Françoise Blum, qui est une femme vraiment formidable. Et qui donc, elle est spécialiste du mai 68 en Afrique, mais c'est vraiment quelqu'un de bien et qui m'a beaucoup aidé. Mmh. Vraiment, pendant toutes mes années à la Sorbonne.
Elle a accepté un sujet aussi iconoclaste.
Oui, mais parce qu'elle aussi, elle-même, elle est en fait, elle est ouverte à des propositions un peu originales. Donc ça lui posait pas de souci.
Bon, alors, on va en venir au sujet, c'est-à-dire le Black Bloc. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots la définition que tu donnerais à ce mouvement et après nous raconter un petit peu comment, depuis quand ils sont connus et puis les moments importants de leur intervention dans l'histoire.
Alors je dirais déjà que le Black Bloc, c'est pas un mouvement, je dirais que c'est une technique de manifestation qui effectivement est à la base issue de milieux autonomes mais qui a quand même été repris par l'extrême droite ou par d'autres courants, donc c'est pas quelque chose qui est qui a une essence comme ça, même si c'est originaire des milieux autonomes, ça peut être repris par n'importe qui, vu que c'est une méthode de manifestation. C'est effectivement issu des milieux autonomes allemands. Bon, alors après, ça s'est répandu, il y a des divergences. Il y a la monographie de Dupuy-Déry sur le sujet. Mm-hmm. Voilà,
aux éditions Luxe.
Aux éditions Luxe, tout à fait.
Que l'on peut retrouver à Publico, 145 rue Hamelot.
Voilà. Donc voilà, lui, il part plus après de Seattle, qui est la grande date aux États-Unis en 1999, qui fait connaître le Black Bloc. Donc, où il y avait une grande manifestation altermondialiste contre la tenue d'un sommet de l'OMC. Mm-hmm. Et après, la grande date, la plus importante pour la France, pour l'Europe plutôt, pardon, celle qui fait connaître le Black Bloc, c'est Gênes en 2001. Donc, G8. Qui vraiment marque une entrée, mais après après cette grosse entrée du Black Bloc en Europe, il y a quand même un grand moment de calme plat, pour tout ce qui est du traitement médiatique français. Ça se calme. Il y a quelques soubresauts par-ci par-là dans quelques événements altermondialistes. Et en fait, c'est en 2009 lors de deux événements principaux, qui est donc une manifestation à Strasbourg. Là, c'était contre un sommet de l'OTAN. Et manifestation intermondialiste, pareil, où il y a eu des émeutes assez importantes, un Black Bloc assez important. Il y a quand même un hôtel particulier qui logeait des policiers en civil qui a été brûlé. Et ça a été un événement qui a beaucoup fait parler à l'époque. Mmh. Et après, c'est aussi dans les milieux anticarcéraux, donc une manifestation qui a lieu à Poitiers, où il y a aussi des Black Blocs importants. Et c'est là que ça a fait parler soi. Après, sinon, les grands points d'entrée médiatiquement du Black Bloc, c'est les ZAD. Donc avec 2014, Notre-Dame-des-Landes, etc. Et puis la loi travail, donc qui est vraiment le moment où ça s'agrège au mouvement social. Ça continue de perdurer. Et c'est une méthode de manifestation qui prend ensuite une autre ampleur avec les gilets jaunes, où là il y a vraiment. C'est une méthode qui sort de l'ultra-gauche, justement. Même s'il y a eu par exemple Jour de colère, donc la manifestation d'extrême droite sous le mandat Hollande, où les médias ont employé le terme de Black Bloc pour parler des manifestants d'extrême droite. Mais sinon, c'est vraiment avec les Gilets jaunes que ça prend une autre dimension, et où ça se répand à des gens qui étaient même parfois primo-manifestants au mois de novembre et qui, en décembre, janvier, se retrouvent dans des Black Blocs. Quoi.
Mmh. Eh bien, voilà. Alors, la presse. Alors, la presse, moi je dis les médias parce que ça mange pas de pain, mais les médias, c'est quoi? C'est les journaux, la télé, la radio.
Et Internet.
Et l'Internet, voilà.
Et encore que c'est une définition restreinte, parce qu'en fait, dans mon champ de recherche à la base, le terme média est en train de s'étendre à tout support de transmission d'une quelconque information. Par exemple, une affiche publicitaire qu'on mettrait dans la rue, ou une affiche tout court, d'ailleurs, c'est aussi considéré comme du média, en fait. Et moi, vu que moi, je travaillais pas sur les médias, mais sur le traitement médiatique, c'est quand même deux choses différentes. Moi, je me suis concentré sur les traditionnels, donc journaux, papier, télévision, radio, et après, Internet, donc les journaux qui sont sur Internet, mais aussi un petit peu les réseaux sociaux et les médias qui sont exclusivement sur Internet.
Tu veux bien nous dire les journaux que tu as?
Oui, alors donc j'ai essayé de prendre un petit peu des points différents. Donc à gauche, j'ai pris l'Humanité pour avoir le point de vue, et Libération. C'est mes deux principaux journaux de gauche que j'ai pris. À l'extrême droite,
De gauche, t'es,
T'es tolérant pour l'IB. Hein.
Ah non, attendez, j'ai fait le master à la Sorbonne, hein, je ne l'ai pas fait à la Fédération anarchiste. Hein. donc, pour la Sorbonne, l'humanité et libération, c'est de gauche. Bon, les médias d'extrême droite, donc j'ai pris Le Point et Valeurs Actuelles. Pour la droite, il y a Le Figaro et il y a Aujourd'hui en France qui est le National du Parisien. Et bon, il y en a d'autres. Hein, et des journaux peut-être un peu plus centristes comme Le Monde ou L'Express. Le but étant vraiment en fait d'avoir un panorama des opinions politiques les plus répandues en France. Je me suis attardé dans mes mémoires de toute façon aussi aux opinions plus extrêmes, extrême droite, extrême gauche, mais vous voyez que c'était pas le cœur du sujet, quoi. Le cœur c'était plutôt les opinions les plus répandues numériquement dans le paysage politique français, quoi. Après, sur ce qui est de la télévision.
Et dans les journaux, tu cites souvent deux mensuels économiques.
Tu parles des Échos ?
Oui.
Il y a les Échos et il y a l'Express, c'est ça ?
Voilà. Non, il y a Valeurs Actuelles.
Valeurs Actuelles, c'est. Oui. C'est surtout d'extrême droite.
Tu peux le dire,
non, mais c'est surtout d'extrême droite. Oui. C'est surtout
Le Point, c'est pas mal non plus.
Oui, bien sûr. Mais. Voilà. Et après, donc, du coup, bon, pour la télévision et pour la radio, ce que j'ai fait, c'est pareil, j'ai fait en utilisant un site qui s'appelle Médiamétrie, qui fait des référencements d'audience pour aller vers les médias les plus.
Mainstream.
Voilà, c'était ça l'objectif. C'était vraiment de voir quand on n'est pas vous voyez, un hyper militant ou quand on n'est pas un universitaire, qu'on est, entre guillemets, si j'aime pas trop cette expression, monsieur, madame, tout le monde, qu'on a accès donc, à ces informations-là, qu'est-ce qu'on a comme information sur le Black Bloc. C'est pour ça que j'ai choisi TF1 et France 2 pour les journaux télévisés, qui sont les journaux les plus regardés. Mm-hmm. Et après, des documentaires, bon, il n'y en avait pas non plus. Enfin, des émissions, voilà. Il y en avait plus que ce que je pensais, mais il n'y en avait pas non plus un milliard d'émissions. Mais il y a eu des documentaires sur M6, il y en a eu sur France 5, il y en a eu sur BFM TV, il y en a eu sur CNews. Bon, je prends les chaînes d'information continue, évidemment aussi. Et pour les radios, j'ai fait France Inter, France Culture. Ouais, les grandes radios un petit peu écoutées, quoi. RMC aussi, beaucoup d'émissions sur RMC.
Et t'évoques aussi l'agence France Presse.
Oui, parce que c'est toujours intéressant de voir justement ce qui est censé être neutre, en tout cas, donc qui est censé être dans le purement factuel et le purement descriptif, que même là, il y a des éléments. L'AFP, par exemple, avait sorti sur un 1er mai qu'il avait été phagocyté par l'extrême gauche. Bon, le 1er mai, à ses origines, à l'extrême gauche.
Hein. 86.
Voilà, donc c'est intéressant. C'est intéressant quand même de voir.
1800. Pardon.
Oui, à Chicago.
Oui.
Les morts à Haymarket. Mais c'est intéressant de voir que du coup, même ce qui est censé être purement descriptif dans son traitement, dans les catégories qui sont employées, ça dénote déjà d'une position. Enfin, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais
idéologique.
Voilà.
Non, tu peux.
Je peux dire maintenant.
Tu peux, vas-y. Ouais.
Je spoil. quand on dit phagocyté, quelque chose est phagocyté par l'extrême gauche. Le terme phagocyté, il a quand même une connotation, voilà, qui est comme une connotation négative. Mm-hmm. Il y a l'idée qu'on s'accapare quelque chose qui ne nous appartient pas, donc qui appartiendrait à quelqu'un. Voilà, là, c'est, donc ça dénote quand même d'une position, quoi, sur un champ politique. Il y a une prise de position quand on dit ça. De fait, même si on se revendique neutre, il y a une prise de position quand on parle de phagocytage d'une manifestation.
Non, mais là, quand on parle de phagocytage pour l'agence France Presse, par exemple, ou pour un média, c'est un argument qui se retourne contre celui qu'il profère. Parce que si on dit que l'agence France Presse est phagocytée par la gauche...
Non, le 1er mai. Le 1er mai.
Bon, alors, le 1er mai est phagocytée par la gauche, oui. Ça veut dire, à contrario, que toi, tu es contre la gauche et que tu es contre cet anniversaire qui...
Contre l'extrême gauche, en tout cas.
Du 1er mai, voilà. Ouais. Donc, ça se... Si tu veux, c'est... Je sais pas comment dire. C'est un truc...
C'est
se tirer dans le pied, quoi. C'est un peu se tirer dans le pied.
C'est révélateur.
Ouais. Bon, écoute, voilà. Merci d'avoir répondu. Alors, là, je vais te demander un gros effort de mémoire. Tu t'appuies beaucoup sur le langage journalistique.
Oui.
Et comment tu décrirais le langage sur les réseaux sociaux ?
Ah, sur les réseaux sociaux, donc
ouais.
Pas sur...
Non, mais après, on y reviendra au journal, mais puisqu'on a un petit peu de temps, là.
Oui. Bah alors,
qu'est-ce qui t'a frappé dans le langage employé sur les réseaux sociaux?
Alors, faut savoir que contrairement à mes études sur les journaux, qui ont été des études systémiques, c'est-à-dire que j'ai lu des milliers d'articles pour ce mémoire, les réseaux sociaux, ça a été plus c'était plus du qualitatif. J'ai sélectionné des choses selon des critères de pertinence. Je pense que sur les réseaux sociaux, faut bien voir sur quel réseau social on parle. Il y a différentes manières d'aborder les choses, et il y a différentes forces politiques en présence aussi sur les réseaux sociaux. Je pense notamment, si je devais parler un petit peu des groupes de Gilets jaunes, notamment par exemple la France en colère, au début du mouvement des Gilets jaunes, il y a eu de grosses tentatives, donc dans les manifestations, mais aussi sur Internet, sur les réseaux sociaux, de l'extrême droite, en fait, de monter les Gilets jaunes contre l'extrême gauche, avec justement des formes d'instrumentalisation. Bon, là, si je devais rentrer un petit peu dans le détail, vu que tu me dis qu'on a un peu de temps, dans le service d'ordre de Jérôme Rodriguez, qui lui, bon, à l'époque, n'était pas du tout au courant, il y a des gens comme Victor Lenta, qui est un militant fasciste, qui a été combattre en Ukraine, qui se sont glissés. Et ces gens d'extrême droite, qui ne se présentaient pas du tout comme ça, bien sûr, étaient dans un discours où l'extrême gauche était présentée comme un ennemi des Gilets jaunes. Mais bien sûr, ça c'était toujours présenté comme si eux n'étaient pas politiques. Vous voyez que c'était le Black Bloc, l'extrême gauche, qui serait un ennemi du peuple. C'est toute une rhétorique d'extrême droite qui était mobilisée. Et donc sur les réseaux sociaux, qui étaient extrêmement actifs. Si vous allez voir, bon, ça doit être difficilement accessible maintenant, mais les premiers posts du mois de décembre sur Facebook, donc sur le groupe La France en colère, il y a énormément de militants d'extrême droite qui postaient des messages au sujet des Black Blocs, des Antifa, beaucoup. Il y a une confusion de façon à l'extrême droite entre Black Bloc et Antifa, c'est pour eux c'est la même chose, alors que c'est pas du tout la même chose. Et donc c'était des militants qui étaient très proactifs sur les réseaux sociaux et qui par ailleurs avaient une audience, hein, faut bien le dire. Quand j'ai cité Jean Rodriguez, bon, c'est un exemple parmi d'autres. Après, bon, on peut pas réduire non plus les réseaux sociaux à ça, et je pense que chez les Gilets jaunes, il y a plusieurs types de discours qui ont proliféré. Certains qui ont pris, le Black Bloc a connu sur les réseaux sociaux une certaine popularité aussi, parce que déjà c'est plus facile à assumer par exemple dans un commentaire Facebook que quand on passe à la télé. Donc il y a des gilets jaunes qui sont passés à la télé, bon j'anticipe un peu là aussi, mais il y a des gilets jaunes qui sont passés à la télé qui évidemment à la télévision ne pouvaient pas tenir des propos qu'on peut facilement tenir quand on discute comme ça dans une manifestation ou quand on est sur un réseau social sur Facebook. Les réseaux sociaux c'est un peu à double tranchant, il y a une radicalité qui est possible à déployer pour l'extrême gauche, mais en même temps la radicalité d'extrême droite s'y déploie facilement aussi. Bon, voilà.
Alors, hors antenne, tout à l'heure, tu m'as dit que c'était difficile de définir le Black Bloc, surtout pas comme un mouvement.
Oui.
Pourquoi tu m'as dit ça?
C'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, un petit peu. Hein, c'est que le Black Bloc, c'est une méthode de manifestation, mais qui est appréhendée médiatiquement comme un mouvement. Donc ça qui est un petit peu intéressant. Alors c'est une tendance, on va dire, qui est à la baisse et qui aujourd'hui normalement n'est plus trop visible. Mais c'est quand j'ai analysé mes premiers articles de journaux, c'était à la fin des années 90 et tout début des années 2000, quoi. 2000-2001. Il y a une confusion chez la plupart des journalistes. Une confusion entre justement cette méthode de manifestation et la mouvance anarchiste, autonome, voilà. On emploie Black Bloc en fait comme synonyme, et c'est progressivement. Si je devais réfléchir aux premiers journaux qui sont intéressés à ça, il me semble que Libération c'est dans les premiers. Les journaux déjà, si je devais quand même dégager une tendance aussi, c'est qu'ils ont on peut observer que quand ils commençaient à parler des Black Blocs, vu que c'était un objet nouveau, il y avait quand même une plus grande, je dirais. Facilité à. J'irais pas jusqu'à dire laisser la parole, vous voyez, mais quand même à essayer de comprendre les motivations des gens. Et par exemple, Libération, je me souviens qu'après Gênes, ils ont fait un article où ils interrogeaient un syndicaliste de la CNT pour lui demander ce qu'il pensait des Black Blocs. Bon, c'était un petit peu. Il ne disait pas qu'il était pour non plus, parce qu'il est syndicaliste. Et bon, encore qu'il y a des syndicalistes dans le Black Bloc, hein, c'est pas le sujet, mais bon,
il n'était pas... Non, mais quand on est syndicaliste, comme disait Thierry, il faut toujours respecter toutes les sensibilités.
Voilà. Hein, donc, il s'affichait pas pour non plus, mais ouais, il y avait une forme de liberté en mode, voilà. Il y a eu des enquêtes, Le Monde a fait des enquêtes dans les ZAD, par exemple, ils ont envoyé des journalistes pour parler aux gens, savoir qu'est-ce qui les motivait à faire ça. Bon, alors que les ZAD, forcément, sont un peu plus tolérés. C'est un type de mouvement qui jouit quand même d'une meilleure aura dans l'espace journalistique que pendant la crise des Gilets jaunes, où là il y avait quand même beaucoup moins d'articles qui s'amusaient à essayer parce que aussi c'était beaucoup plus compliqué, oui. Hein, pour être journaliste dans le mouvement des Gilets jaunes, les gens ne veulent pas vous parler, à juste titre selon moi, de toute manière.
Et la police attend de vous tabasser, donc voilà. Comme ça on est tranquille.
Donc c'est sûr que c'est aussi matériellement plus compliqué, mais enfin, il y avait moins de tentatives, je trouve, d'explications dans ce qui ressortait. Après, par contre, ça a été plus fait en fait dans les autres médias, c'est-à-dire télévisuels et radiophoniques. C'est-à-dire que ça s'est un peu parti de la presse papier, mais ça s'est vu en fait, par exemple sur C8 dans l'émission d'Hanouna, ils ont.
On y reviendra sur l'émission d'Hanouna.
On reviendra, d'accord. Bon, y a eu ça, mais il y a aussi à la radio. Hein, ça va arriver. Il y a une grosse engueulade entre quelqu'un qui avait appelé RMC et Gilles William Gonadel. Et c'était après un acte de gilets jaunes, il y avait eu des émeutes, et puis le mec il dit « Ouais, moi je suis Black Bloc, Et il justifie comme ça pourquoi est-ce qu'il a participé aux émeutes en tant que Black Bloc. Et Golnadel, il pète un plomb, il dit « Vous êtes un fasciste, voilà. » Bon, il fait tout un grand sketch comme ça, mais donc à la radio ça se fait un peu, à la télévision, dans les médias un peu moins quand même. C'était plus au début.
Bon, alors, quels sont les... Rapidement, quels sont les tics... linguistiques ou les métaphores qui reviennent le plus souvent chez les médias pour qualifier les émeutes ou les interventions des Black Blocs.
Voilà, ça va
sans en définir l'origine, hein, si tu veux.
D'accord. Bon, ça va faire un peu écho quand même à l'émission avec Acrimed, du coup. Hein.
Oui, voilà, c'est vrai.
Il y a 15 jours.
C'est bien que tu viennes juste après.
On a une ligne éditoriale, effectivement, ouais. Il y avait Acrimed avant toi.
Moi, bon, je sais pas si on est sur la même ligne.
Ça, c'est chronologique.
Oui, mais c'est une ligne éditoriale aussi.
Mais bon, en tout cas, il y a des choses quand même qu'ils ont dit qui sont tout à fait vraies et que j'ai moi-même observé. Par exemple, le vocabulaire animalier.
Ça, tout
c'est,
à fait.
Voilà, ça c'est vraiment.
Ça c'est une constante.
Voilà.
Même, pour dénigrer.
Voilà.
La grogne.
Par exemple, y a, dans un communiqué qui avait été largement repris dans la presse d'un syndicat de police, il y avait le qualificatif essaim de cloporte. Pour parler donc des Black Blocs et des Antifa.
C'était aussi employé par les Tutsis, les Hutus.
Oui, les cafards.
Ce terme de cloporte.
Ah, c'était les cafards.
C'était les cafards, ouais. Les Inyenzi, les cafards.
Mais donc ça rentre dans un processus de déshumanisation. Donc ça fait partie des éléments...
De langage.
Des éléments de langage récurrents. Après, y a les phénomènes pareils qui sont toujours de dépolitisation et de psychologisation. Voilà. Donc,
alors psychologiser, ça veut dire que c'est des malades, c'est ça, non, tu veux dire?
Ça veut dire réduire une action politique à un pendant psychologique individuel. Donc en gros, une personne commet un acte politique, donc par exemple une émeute, et on va réduire ça au fait qu'elle adore la violence,
qu'elle est hystérique,
qu'elle a soif de sang, qu'elle est haineuse, qu'elle est hargneuse.
Les classes populaires sont les classes dangereuses.
Voilà.
Comme disait André Malheur.
Alcoolisée
de plus.
C'est une figure qui revient aussi, oui.
Ouais.
Et ça faisait écho à un livre que j'ai utilisé dans mon travail, c'est Les écrivains contre la commune, où ils recensent comme ça voilà, des tropes qui étaient un peu utilisées par la bourgeoisie du moment pour définir les communards. Et il y a beaucoup en fait, de similitudes.
Ah, rien n'a changé.
Il y a un siècle, je vais peut-être pas jusqu'à dire que rien n'a changé, mais il y a beaucoup de similitudes en tout cas.
Oh.
Malgré un siècle et demi d'écart entre les deux objets d'analyse, effectivement, il y a énormément de tropes qui reviennent, l'alcoolique, la comparaison animalière, la psychologisation, la dépolitisation.
La violence, enfin on y reviendra.
Oui, le vocabulaire sur la violence aussi.
Alors, tu fais état aussi d'amalgame systématique.
Mm. Oui.
Tu peux nous en dire deux mots?
Alors, d'amalgame, il y a les amalgames dont j'ai déjà parlé entre Antifa et Black Bloc, mais je pense que c'est pas de cela dont tu parles.
Non.
Toi, tu me parles avec l'islamisme, c'est ça?
Oui, islamo-gauchisme et anarchie et terrorisme aussi.
Voilà, c'est dans la filiation, c'est ça. Hein, c'est, vu que l'anarchisme jouit d'une image extrêmement marquée par la propagande, par le fait, et puis surtout les années de plomb, Action Directe, etc. Bon, tous les mouvements qui sont déjà très bien connus. C'est une filiation qui perdure aujourd'hui. Donc quand on parle de Black Bloc, vu que c'est assimilé à l'anarchisme, on parle de terrorisme. Donc il y a un vocabulaire terroriste qui est employé régulièrement. Il y a eu, concernant l'affaire Tarnac, donc le grand fiasco judiciaire, il y a eu, on a qualifié Julien Coupa et sa bande de Black Bloc. Et c'est quelque chose qui est revenu dans le vocabulaire de Manuel Valls, parce qu'en 2016, il parle des amis de Monsieur Coupa, quand il parle des Black Blocs du 1er mai. Des gens qui, au fond, n'aiment pas la démocratie, disait-il.
Sauf que lui, il est allé manifester avec l'extrême droite à Barcelone, mais passons.
Oui, mais là, ça...
Oh, arrête, tu es haineuse.
Tu es haineuse.
Il a vendu des armes aussi. Hein.
Mais donc voilà, donc oui, l'amalgame terroriste, évidemment, et puis l'amalgame avec l'islam radical. L'islamisme, voilà.
L'islamo-gauchisme.
Tu donnes un exemple qui est fameux. Du résultat que peut entraîner ce genre de contre-vérité, c'est la soi-disant attaque de l'hôpital Necker. Faut que tu en reparles aux très jeunes auditeurs, parce que ça vaut le coup, quoi.
Ça, c'est pendant les mouvements contre la loi travail en 2016. Donc la manifestation passait devant un célèbre hôpital parisien, donc hôpital Necker. Et en fait, un individu visiblement pas au courant que c'était un hôpital, s'est mis à taper sur les vitres, et assez rapidement on lui a quand même signalé que c'était un hôpital, et donc il a arrêté de taper sur les vitres. Les manifestants lui ont signalé que c'était un hôpital, donc il a arrêté. Et en fait, l'affaire a été immédiatement montée en épingle, et on a commencé à dire qu'il y avait une attaque insupportable de terroristes contre un hôpital pour enfants, rendez-vous compte, le ministre qui va sur place le soir même, la presse grandiloquente qui s'alarme. Mais je crois qu'il y a quand même eu, pour rendre à César ce qui est à César, je crois qu'il y a quand même eu deux services de journaux, je crois que c'est Le Monde et Libération, à vérifier, mais je crois que c'est Le Monde et Libération, qui ont fait une enquête et qui se sont rendus compte que peut-être c'était pas une attaque finalement des Black Blocs contre l'hôpital Necker.
Oui, mais attends, si tu compares...
Mais c'est arrivé très, très longtemps après. Hein.
Voilà, puis si tu compares le nombre de gens qui lisent Le Monde et Libé au nombre de gens qui ont regardé les exagérations télévisuelles, parce que c'est bien ça. Hein.
Le fond que je soulève, c'est que, effectivement, donc, Le Monde et Libération ont fait cette vérification a posteriori qui a été lue par à peu près personne, comparé à des journaux télévisés avec plus de 10 millions de téléspectateurs qui, eux, ont tous dit en prime time que des Black Blocs avaient attaqué un hôpital. Mais surtout quand il y a eu l'attaque de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière en 2019. Ah, oui. On a ressorti du dossier le fait que les Black Blocs avaient déjà attaqué l'hôpital Necker, comme si en fait finalement ça avait bien eu lieu. Et donc ce qui est important dans la mémoire collective, est-ce que c'est deux pauvres check news de Le Monde et Libération que personne n'a lu, ou c'est cette mémoire collective qui semble s'être créée, ou en tout cas, je parlerai pas de mémoire collective comme un espèce de truc qui toucherait toute la France, mais au moins dans le champ politique et chez les producteurs
et dans les conscients collectifs.
Que sont les journalistes, en fait, pas tous les journalistes. Je tiens quand même aussi à dire que là il faut quand même apporter une nuance, c'est que plus on tend vers la droite ou l'extrême droite, et plus ça devient grossier, en fait, et à l'inverse, plus on va à gauche, moins c'est grossier, mais droite comme gauche s'inscrivent quand même dans un même ordre symbolique. Bon, ça, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, mais droite et gauche.
Certainement qu'on va y revenir.
Voilà, bon, je vais peut-être pas m'avancer sur ça, mais précisons quand même que c'est plus quelque chose qui s'observe à droite qu'à gauche, même si ça peut s'observer dans les deux. Et même si y a quand même quelqu'un qui aime déroger à la règle sur ça, c'est L'Humanité, qui est un journal qui est très véhément contre le Black Bloc, mais bon, les anarchistes en général. Par exemple, vous voyez, un journal comme L'Express est beaucoup plus modéré comparé à L'Humanité. L'Humanité, il y a des articles de journaux qui sont extrêmement violents, extrêmement à charge sur les Black Blocs.
On reviendra plus loin pendant l'émission sur les raisons symboliques qui sous-tendent cette attitude. Mais maintenant, pour l'heure, on va écouter ton premier choix musical. Est-ce que tu veux le présenter ou on le fera après ?
Je pense que c'est une chanson, c'est mieux qu'elle se présente d'elle-même.
D'accord.
Après, je en parlerai si tu veux.
Ok.
Jusqu'à l'agonie. Brûler la frange, j'ai brûlé la roue. Vite dans sa bouche, je veux comme un porc. Liquide visqueux, mâche ça comme à la barre. Cet hexagone, je l'encule sa grand-mère.
Air France, on mange trop mal à bord. Quand je veux défendre mes intérêts, à coup d'accord, grosse pute me donne encore tort. Venard hardcore, elle aime quand on se tue, quand y'a du sang à l'aéroport. La prof m'a appelé, râlait de quel cal. Sans doute avait-elle ses raisons. Marianne a falsifié ma story, j'ai posé une bombe sous son panthéon. Pas le train, Gus, fais attention, t'es beaucoup trop vrai dans tes chansons. La vérité est pire que l'illégal, au bout c'est la mort ou la prison, c'est.
Ouais, 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 ouais.
J'ai baisé la France, j'ai brûlé la France, doux pays de mon enfance. Quand tu rentres, j'ai crapaud qui s'accroupit, on dit qu'il faut s'accroupir aussi. Sauf que Royal est mon ADN, criminel est mon génie. Ma plume détruit, la France qui crie, je décortique mix des face à l'OPG. Ils n'ont rien compris, la souffrance de mon âme ne tire pas ses origines d'aujourd'hui. Que dit l'autre con de Charles Trenet, n'a jamais été d'où le pays. Négro se prend des bastos dans le crâne toute la vie, mais ne meurt jamais malgré lui. Encaisse le mal infini, stock à l'intérieur et pur, on voit toute l'énergie. Ils font leur prière mais ils meurent à la fin car il n'y a que le noir qui soit béni. Oui. Béni, oui, 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 oui. J'ai baisé la France, j'ai brûlé la France, doux pays de mon enfance. Apparemment je défrais la chronique, nique dans toutes leurs coupures de presse. Sujet verbe complément bien placé, et je suis un peu plus qu'un de ces mecs de test. Le cœur marqué de face indélébile, ma caca la rancune très volubile. Maintenant on est gros au micro, ils disent que j'attise veulent en guerre civile. Vas à volo, j'ai la main sur le volant, regarde tous ces rappeurs à des pâquerettes. Ils n'y vont pas mollo pour me souhaiter la mort, l'art de pacotille sans venir sa défaite. Mais pas les lions là où sont les chiens, ma bite dans la bouche d'Olivier Cachin. Nique le buzz, je veux tout baiser sans faire d'effort, je vais pulvériser toutes ces catins.
Je torpille leur monde, ils disent tous oh mayday, mayday. Je baise la France, je baise la France jusqu'à l'agonie. J'ai brûlé la France, j'ai brûlé la France. Instoppable et l'incendie. J'ai baisé la France, j'ai baisé la France jusqu'à l'agonie. J'ai brûlé la France, j'ai brûlé la France. Instoppable et l'incendie. La 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 la.
Eh bien, vous êtes à nouveau à l'écoute de Pas de quartier, l'émission du groupe Plus Michel, sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, sauf pour Publico. Des fois, on fait un peu de publicité, mais voilà, c'est très rare, hein, Mariama?
Non, c'est constant pour moi.
Oui, c'est vrai que c'est une constante, c'est tout là. Bon, enfin, bref. Alors, comme j'ai lu ton mémoire avec beaucoup d'attention, je voulais te dire ceci, c'est que d'après toi, tous ces traitements à charge du Black Bloc, des Gilets jaunes et des jeunes de cité, parce qu'ils sont amalgamés très souvent, cette critique qui émane des pouvoirs publics et de leurs chiens couchants, c'est-à-dire les médias, ont une origine commune. Et cette origine commune, sur laquelle on reviendra, à mon avis, assez abondamment plus tard, c'est que l'État, dans l'état d'esprit des gens, dans les gens, chez les gens, il est théologisé, c'est-à-dire que, sans employer le mot fétiche, sur lequel nous reviendrons aussi tout à l'heure, c'est une espèce de deus ex machina qui a une valeur énorme, en tout cas beaucoup, beaucoup plus énorme que ce qu'elle n'est réellement. Et j'aimerais que tu nous dises quels sont les résultats de cette espèce de consensus sur l'État.
Alors, je pense que ce qui est important de préciser d'entrée de jeu, c'est que je m'intéresse aux formes de conscience, à la manière dont, dans nos sociétés modernes, on produit une conscience politique. Je pense qu'on la produit largement inconsciemment. Je pense que c'est avant tout des états de fait, des états d'habituation, des éléments qui sont déjà là quand une personne est née et qui vont s'intégrer en elle majoritairement de manière inconsciente, mais aussi de manière consciente.
L'éducation aussi.
À travers l'éducation nationale, les cours civiques et morales. Voilà, c'est des choses auxquelles on pense spontanément. Ouais. Mais c'est tout un ordre symbolique dans lequel on baigne en permanence, vous voyez. Les monuments, la cour de la République, les noms de rues, les noms d'écoles, la culture en général, les films qu'on regarde, voilà. Tout notre espace de vie, notre espace social est saturé en permanence de cet ordre socio-symbolique qui est effectivement une production de l'État, ou qui a pour élément matriciel l'État, mais dont il ne faut jamais perdre de vue, bien sûr, que les êtres humains sont les producteurs de cet ordre.
Et ils sont les quoi ?
Les producteurs.
Les producteurs.
C'est un...
Tu veux dire qu'ils le reproduisent continuellement.
Ils le reproduisent carrément. Mais il faut jamais perdre qu'il y a un sujet. Alors, le sujet, il agit inconsciemment pour partie, consciemment pour partie, je l'ai dit. On vit dans une société de classe. Donc, nécessairement, cet ordre socio-symbolique est marqué par son caractère de classe. Et donc, pour revenir à ta question, sur les gilets jaunes, sur les jeunes de cité et sur le Black Bloc, et comment tout ça est amalgamé dans une espèce de marasme. De marasme symbolique, je dirais que notre ordre symbolique, il crée un sujet légitime et un sujet illégitime, par définition. Et qu'en fait, c'est un peu ça qui lie nos trois éléments, finalement. Les jeunes dans les quartiers qui sont majoritairement issus de l'immigration, eux sont d'emblée disqualifiés de leur légitimité pour leur couleur de peau. Pour ce qui est des Black Blocs, c'est pour leur engagement politique. Et pour ce qui est des Gilets jaunes, ça a été plus compliqué parce que ça a été un changement progressif. Quand les Gilets jaunes étaient encore à l'intérieur de cet ordre symbolique, les médias étaient plutôt favorables, c'est-à-dire au tout début du mouvement.
Quand ils disaient qu'ils étaient apolitiques, par
voilà.
exemple, ça, ils devaient
et
boire.
Et que c'était juste des honnêtes gens. Voilà. Mmh. Ça, l'ordre symbolique, il adore les honnêtes gens parce que les honnêtes gens, c'est des gens qui font pas la révolution, déjà. et donc, quand c'était des honnêtes gens qui voulaient juste avoir un peu plus de pouvoir d'achat et payer mon impôt, tout allait bien. Après, quand ça a commencé à produire des émeutes et des remises en question et de la radicalité politique, là, évidemment, on est rentré dans la sphère de l'illégitimité. Voilà. Après, je pense qu'il faut garder en tête, c'est qu'on n'est pas... tous, même nous en tant qu'anarchistes, exempts de toute forme de reproduction. C'est que, vu que c'est quelque chose d'inconscient, c'est quelque chose qu'on a tendance à reproduire nous-mêmes dans nos théories politiques, dans nos pratiques politiques, dans à quoi nous on va donner de la légitimité ou l'illégitimité. Il y a aussi des récupérations d'éléments symboliques. Mm-hmm. Bon, si je peux...
Alors, donner
un
exemple.
Un petit exemple. Chez les anarchistes, on adore la Commune de Paris.
Ah oui.
Voilà.
Et on a oublié de fêter Kronstadt.
Ah, c'est pas ça, c'est que la Commune de Paris, la République de la justice et du travail, c'est la justice et le travail, ça s'appelle le capitalisme chez moi, hein, parce que la justice c'est la justice de l'État, et le travail c'est la substance du capital, donc la République de la justice et du travail c'est le capitalisme en fait. Oui, donc c'est un peu provocateur hein, forcément, parce qu'en plus, c'est des anarchistes qui écoutent ça, ils vont être fâchés avec moi, mais c'est pas grave. Mais pour dire que même si l'intention derrière n'est pas forcément la reproduction du capitalisme, on peut se perdre dans des éléments qu'on va
récupérer de ça. Dans la symbolique.
Dans cet ordre symbolique.
Et pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure à propos du journal L'Humanité, j'ai beaucoup apprécié ton explication de comment ça se fait que des gens qui se revendiquent d'une pensée de gauche puissent arriver à condamner d'autres personnes qui se revendiquent de gauche.
Là, je pense que c'est un exemple flagrant. L'Humanité, et bon, L'Humanité, même si aujourd'hui ils vont dire que c'est pas le journal du PCF, c'est un peu quand même le journal du PCF. Et puis, on va dire qu'ils en ont gardé une filiation quand même, même si effectivement il y a peut-être pas un commissaire politique dans le comité de rédaction. Mais enfin bon, ils en ont gardé quand même une filiation politique. Et en l'occurrence, je pense que L'Humanité, dans son rapport positif au syndicalisme lambda, donc celui de la CGT, des partenaires sociaux, du dialogue social, des manifestations République Bastination, des grèves déclarées, vous voyez, cette institutionnalité est pleinement dans cette forme de reproduction. Et vu que c'est une modalité de pratique politique qui tire sa légitimité de l'État, puisqu'en fait c'est l'État qui reconnaît en tant qu'acteur légitime les syndicats comme la CGT, qui reconnaît les partis politiques en tant qu'acteurs politiques légitimes, puisqu'ils tirent leur légitimité et donc leur puissance symbolique de la part de l'État, ils ne peuvent pas le remettre en question de manière radicale. Et donc voilà pourquoi...
C'est surtout parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils y croient un petit peu, quand même. Beaucoup.
Oui. Hein, oui, non, mais ça, je pense qu'il faut y croire un peu. Parce que si tu fais ça sans y croire, c'est encore pire. Non, je pense qu'ils y croient. Ils y croient sincèrement. De toute façon, voilà, moi, je remets pas en question la sincérité des gens. Hein. Ça, c'est la base des choses. Alors, juste pour finir sur l'humanité, sur cette gauche-là, en général, c'est quand même une gauche qui tire sa légitimité de l'État et qui a donc pas intérêt à ce qu'on la conteste, y compris que ce soit le Black Bloc, les Gilets jaunes ou... les jeunes des quartiers.
Alors là, on va passer à des choses sérieuses. C'est que...
parce qu'on n'y était pas déjà.
non, mais choses sérieuses. Par rapport à l'attention toute particulière que Samuel a portée, c'est-à-dire que tu établis dans ton mémoire que cet État qui est théologisé condamne les Black Blocs, ainsi que les jeunes et les Gilets jaunes, parce que surtout sur deux raisons qui sont, premièrement, il leur reproche d'être antidémocratique et deuxièmement, il leur reproche d'être violent. Alors, est-ce que tu peux en quelques mots nous expliquer ce qui se cache derrière cet antidémocratisme affirmé?
Alors, en quelques mots, ça va être compliqué. On va essayer de faire
mieux.
Mais
c'est ça qui fait le charme de Pâques-Cartier.
Sur la démocratie, en fait, je me suis référé à Francis Dupuy-Déry aussi. Mm-hmm. Parce qu'il faut savoir qu'avant d'écrire sur les Black Blocs, Francis Dupuy-Déry, il a fait une thèse de politologie, de sciences politiques, sur le concept de démocratie et l'utilisation du mot démocratie en France et aux États-Unis, des révolutions donc américaines et françaises à nos jours. Et lui, en fait, je reprends sa chronologie, hein, il distingue quatre temps. Donc, c'est-à-dire qu'au départ... le démocratisme dans l'épisode qu'on appelle le siècle des Lumières, c'est quelque chose qui était quand même vu de manière plutôt négative. En gros, c'était plutôt une insulte quand on disait que quelqu'un c'était un démocrate, c'était un peu qui voulait le chaos dans la société parce que c'était associé au chaos. C'était associé à l'idée qu'il y avait des gens comme ça qui allaient sortir des bas-fonds, qui allaient faire n'importe quoi, qui allaient plus avoir de société, plus d'ordre et qu'on allait sombrer dans le chaos. Donc c'était quelque chose de très négatif et qui en fait progressivement s'est transformé. Donc s'est transformé. Après la Révolution américaine, Francis Dupuy-Déry documente ça vraiment longuement. Je vais pas revenir sur tout ce qu'il fait, mais enfin, il va jusqu'à chercher les correspondances entre dirigeants politiques américains ou français. Et puis dans la correspondance, ils disent texto. Bon, enfin, en substance, la démocratie, j'en ai rien à faire, mais puisque ça marche bien politiquement, je vais en faire mon fonds de commerce, quoi. Et donc, il se rend compte, voilà, qu'il y a un processus comme ça de légitimation où ça suscite un intérêt et électoralement ça rapporte. Quand il y a les premières élections qui sont faites en dehors du suffrage censitaire, donc en France c'est quand même plus tardif, hein, c'est pas pendant la Révolution française, là on parle du 19e siècle, donc au suffrage masculin, on se rend compte que ça porte. Donc progressivement le terme de démocratie va changer de charge. Il va partir d'une charge plutôt négative pour aller vers une charge plutôt positive. Et à mesure que cette affirmation est progressivement ancrée dans la société, le mot démocratie termine comme on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire en étant une immense positivité indiscutée.
Mais c'est un mot fourre-tout, quoi. Hein.
Dans laquelle, ce que j'essaie de montrer, c'est un peu tout le monde qui s'y reconnaît, quoi.
Zemmour à Marine Le Pen.
C'est même plus que ça, parce que en Union soviétique, donc on pratiquait le centralisme démocratique. L'armée de Franco se vante d'avoir sauvé la démocratie en Espagne. Pinochet se vante de l'avoir sauvé au Chili.
Oui.
Vous voyez, en fait, de l'extrême droite la plus crasse aux dictatures marxistes-léninistes les plus terribles en Europe de l'Est, tout le monde est démocrate. Et on pourrait aussi disserter sur la République démocratique de Corée ou des choses comme ça.
Ou du Congo,
ou voilà. donc voilà, maintenant, aujourd'hui, c'est quelque chose dont tout le monde s'est rendu et que personne n'aurait idée de dire.
Oui, disons que c'est passé dans le sens commun.
Voilà. Hein. Et puis surtout, c'est quelque chose. Même il y a même des royalistes qui se disent démocrates. Enfin, c'est
et qui restent tapés le cul par terre.
Voilà. donc voilà. Pour répondre à ta question sur la démocratie. Alors après sur comment est-ce qu'on en vient avec le Black Bloc. Comment est-ce qu'il
l'homme de la rue a intégré cette façon de voir. Hein. Il l'a fait sienne.
Je pense que même nous, les anarchistes, on se dit démocrate.
Oui, parce que nous, on se revendique plus de la démocratie directe.
La vraie. Voilà.
Et comme les Black Blocs.
Il y a la vraie, il y a la fausse. Chose. Bah alors moi, c'est ce que je dis un peu dans le mémoire, mais ça, je ne sais pas si tu l'as,
non, tu peux en parler,
si tu l'as relevé, mais
oui, oui, oui.
Moi, je ne pense pas qu'il y ait de vraie ou de fausse démocratie. Je pense que la démocratie, c'est une abstraction, par définition, ce n'est pas quelque chose de concret, de tangible. Et je pense qu'il n'y a pas d'essence aux abstractions, et donc on ne peut pas... l'abstraction, l'essence de la démocratie ne peut pas être historique, parce que les sociétés démocratiques dans la Grèce antique ne sont pas des sociétés au sens où nous on l'entend. Les femmes en sont exclues, les étrangers en sont exclus,
les
esclaves en sont exclus. Donc on ne peut pas se revendiquer d'une essence historique du mot démocratie.
Mm. Enfin, Platon et Aristote tombent d'accord que la démocratie, suite à une élection, c'est réservé à l'élite, que si on veut être juste, il faut confier ce soin au hasard.
Oui, hein, mais là, encore une fois, bon, c'est un point de vue qui serait peut-être pas
très, très négatif pour la démocratie.
Oui, mais qui ne serait pas forcément partagé, tu vois, par tout le monde. Ça, ce n'est pas, la définition.
Il y a des élections présidentielles où on aimerait mieux que ce soit confié au hasard.
Oui, mais il y a ce qu'on aimerait et puis il y a le sens commun, tu vois.
Oui.
Oui. Et moi, mon point, c'est ça, c'est de dire que, bon, la démocratie, c'est avant tout une abstraction réelle, dans le sens où elle est réellement à l'œuvre, réellement mise en place par l'État, réellement revendiquée. Elle est matériellement produite par l'élection, par toute la symbolique démocratique républicaine. Quand on s'en revendique, moi je suis pas certain de la pertinence de dire qu'il y a la vraie, la fausse démocratie. Je pense que la démocratie qui est revendiquée par l'État républicain, elle a au moins pour réalité qu'elle existe, qu'elle est là et qu'elle nous domine, qu'on le veuille ou non. Enfin, même si on est contre les élections elles ont lieu, qu'on soit pour ou contre.
Alors forcément, les médias et l'État vont jeter l'anathème sur les Black Blocs qui eux n'admettent pas cette démocratie, en tout cas cette forme-là.
Bah en tout cas, voilà, chez les Black Blocs, ils sont quand même, pour ce qui nous intéresse, même si j'ai dit tout à l'heure que c'était pas un mouvement, on va quand même, par facilité de langage, en parler comme si c'était l'extrême-gauche ou l'ultra-gauche, parce que c'est quand même majoritairement ça en France. Hein. Mm-hmm. L'extrême-droite, c'est plutôt l'exception que la règle. Encore que ça tend à devenir confus, je trouve, en ce moment, avec les manifestations contre le pass sanitaire. Mais enfin bon, ça c'est encore autre chose. Donc oui, concernant le fait de jeter l'anathème, bah oui, là c'est deux visions de la démocratie qui s'affrontent. Celle qui est matériellement produite par l'État, donc qui est une réalité de fait.
Et qui admet tout à fait le capitalisme.
Et qui admet tout à fait le capitalisme, l'état de l'économie de marché, l'État.
Les paradis fiscaux.
Voilà, la vente d'armes, tout.
Ouais, voilà.
Et celle qui est revendiquée par les anarchistes, qui est évidemment pas la même, et qui se revendique de la vraie démocratie, donc. Mais donc, c'est évidemment quelque chose que l'État ne peut pas concéder. Enfin, l'État ne peut pas dire qu'en fait, la vraie démocratie serait celle des anarchistes et que lui fait une fausse démocratie. C'est pas possible.
Donc, ce d'où la fin des haricots.
Oui.
Alors, dans le vocable que tu emploies, c'est-à-dire la théologie d'État, ce qui m'a frappé, c'est que c'est... L'État, il n'est pas seulement l'équivalent de la démocratie, mais il en est le garant. C'est-à-dire que c'est comme si celui qui invente un jeu était celui qui menait le jeu, hein, et qui avait les cartes qu'il voulait dans son jeu. Donc voilà.
Ça fait penser à Amazon.
Hein, Amazon, oui.
Ouais.
Bon. Ou Facebook. Rapidement, tu peux préciser ce que tu voulais dire là ?
Donc sur la théologie d'État au niveau de la démocratie. Ouais. Tu dis, effectivement, il en produit les règles du jeu, mais bon.
Il est le
je
garant.
Je pense que. Hein, il en est effectivement le garant.
Il est soi-disant là pour le garantir.
Oui. Et en un sens, il garantit sa vision de la démocratie, qu'on peut ne pas le partager par ailleurs, mais. Et je pense qu'elle est largement contestée, il n'y a pas de souci, hein, même. Il n'y a pas de souci sur ça. Mais je pense qu'il faut se garder d'analyses qui seraient trop simplistes sur l'État. Même si, comme j'ai dit, on vit dans une société de classe et donc il y a une classe dominante que l'État sert largement, plus que les classes dominées, l'État n'est pas un appareil qui se reproduit exclusivement de classes dominantes. Et toute domination, quelle qu'elle soit, historiquement, quel anthropologue pourrait vous le montrer, toute domination qui soit, est possible par une forme de participation inconsciente, indirecte, passive, aliénée de toutes les classes.
Très voilà. Importante. Oui.
Ça, il faut relire Graeber, qu'est-ce que l'anarchie ?
Par exemple, oui, Graeber en parle, mais enfin bon, vous pouvez dire, Godelier, il en parle aussi.
Oui.
Alors, rapidement, puisque l'heure tourne, malheureusement. Alors, le Black Bloc, l'État ne l'aime pas, et les médias non plus, parce qu'il est antidémocratique. Mais ce qu'il lui reproche aussi très souvent, et beaucoup, c'est qu'il est violent. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que cette violence? Est-ce que les flics sont pas violents aussi? Éclaire-nous.
Bah là, éclaire-nous. C'est un peu le même, c'est un peu le même problème. C'est-à-dire que la violence en soi est une abstraction. On range derrière l'abstraction violence qu'on a envie d'y ranger. Et que le propre même de l'État, c'est de, en dehors même de la question de la légitimité de la violence, c'est de définir qu'est-ce qui est violent. Quand Macron dit on ne peut pas parler de violence policière dans un État démocratique, ce qui veut dire c'est que la violence, c'est ce qui se fait en dehors des clous de l'État. La définition même de l'État, quand il dit qu'il possède le monopole de la violence légitime, c'est aussi que l'idée, c'est que la violence, elle est... C'est dès lors qu'elle sort du cadre.
C'est lui qui la définit.
C'est lui qui définit le cadre de ce qui est
violent. La bonne violence et la mauvaise violence.
Voilà. Donc dès lors, effectivement, c'est, si on reste dans le cadre de l'État, si on est un étatiste...
bon, la police ne peut pas être violente.
La police ne peut pas être violente, effectivement.
Donc, puisqu'elle défend l'ordre.
Puisqu'elle défend l'ordre. Et dans l'ordre, qui est quand même l'émanation de la volonté démocratique. Mmh. Voilà, donc il y a une cohérence de l'État quand même sur ça. Donc c'est pour ça que moi ça me fait toujours rire, vous savez, les gens qui souscrivent à la moitié de la cohérence et puis qui sont pas d'accord avec l'autre moitié, comme si on pouvait avoir le beurre et l'argent du beurre. Bon,
et voilà. La crémière.
Voilà. L'État, il produit cet ordre symbolique, sa légitimité et sa violence. Et c'est pas juste l'État moderne, parce que l'État moderne le fait effectivement, enfin c'est tous les États. Toutes les formes d'État. Donc là en l'occurrence, l'État moderne n'y fait pas exception. Et donc sur cette histoire de violence, bah oui, effectivement, les vrais violents sont les gens qui s'opposent à l'État.
Alors, pour avancer, il y a un passage de ton mémoire qui m'a énormément plu. C'est celui, à plusieurs reprises d'ailleurs, où tu vois l'origine de ces débordements dans les façons de manifester. L'origine, d'après toi, ce serait que l'économie capitaliste est en crise. Alors, quand on dit en crise, ce n'est pas le mot qu'il faudrait employer, parce qu'une crise, c'est quelque chose qui ne dure pas. Là, c'est une crise qui dure depuis 2008, enfin depuis 1975.
C'est un système de gouvernance, voilà. François. On l'a démontré en recevant Benoît Colomba,
oui.
Avec le choix du chômage.
Non, mais ce que j'ai compris de ce que disait Samuel, c'était que face à cette crise du capitalisme qui n'en finit pas de finir, eh bien, les gens, les jeunes... s'aperçoivent que le contrat qui était passé entre les syndicats et l'État, c'est-à-dire qu'on peut manifester, mais à condition de ne pas être violent et de ne pas être contraire à la loi, ça ne suffit plus. Et c'est comme ça que tu expliques un petit peu qu'il y ait des changements dans les modes de manifestation chez les Black Blocs, chez les jeunes et chez les Gilets jaunes.
Voilà. Alors bon, pour revenir peut-être un peu plus en détail, je pense qu'il faut quand même préciser certaines choses. Premièrement, je pense que énormément de personnes estiment que l'économie est quand même une affaire de décision politique. L'idée selon laquelle les dynamiques économiques du capital sont une affaire de décision politique est profondément en opposition avec les écrits de Marx dans le Capital. Donc c'est toujours très amusant de voir des gens qui se revendiquent marxistes de sortir des idioties pareilles. Soit on se dit que c'est des décisions politiques, soit on se dit que c'est pas des décisions politiques, ce qui est la thèse de Marx. Et donc dans ce cas-là, force est de constater que le chômage n'est pas forcément un choix, du coup.
Non.
Et que, en fait, la thèse que je défends, qui est principalement développée par la critique de la valeur, mais enfin bon, la théorie marxienne de l'économie politique en général.
Anselm
Jab, voilà, par exemple, qu'on a fait une synthèse, mais enfin bon, la critique de la valeur, c'est un certain nombre d'auteurs. Plutôt allemand, même s'il y en a en France aussi, qui en fait, eux, estiment que, après sa phase des Trente Glorieuses, le capitalisme est rentré dans une forme de crise, c'est-à-dire que c'est pas une crise comme nous on l'entend, par exemple la crise 2008, la crise subprime, voilà, où il y a eu un crash et puis bon, rien ne va plus, ou la crise de 1929.
C'est quelque chose qui est passager.
Voilà, en tout cas dans l'imaginaire, ça, eux théorisent plutôt l'idée d'un capitalisme de crise qui pourrait perdurer, vous voyez. L'idée qu'en fait, tous les phénomènes qu'on peut observer, c'est-à-dire les délocalisations, la financiarisation de l'économie, le chômage structurel de masse, la précarisation, la mondialisation, bon, tout ça, c'est des phénomènes qui sont concomitants, consubstantiels plutôt au capitalisme de crise. Et qu'en fait, ces phénomènes sont amenés à durer. Et qu'en fait,
qui dure en tout cas.
Qui dure, voilà. Bon, pour l'instant, il dure. Et qu'en fait, le modèle qu'on a connu de dialogue social avec des syndicats forts qui représentent des masses ouvrières et qui négocient des salaires, des acquis sociaux, etc., des conquêtes sociales, pour faire plaisir au PCF. Bon, ces gens-là relèvent d'un modèle qui fonctionnait dans le capitalisme des années des Trente Glorieuses, vous voyez, donc de celui de croissance, donc il peut effectivement, puisqu'il y a quand même des taux de croissance qui ne trompent pas, hein. Les taux de croissance des années des Trente Glorieuses ne sont pas du tout les taux de croissance qu'on connaît aujourd'hui. Donc effectivement, il y a une meilleure redistribution qui était possible. Aujourd'hui, dans le capitalisme de crise, c'est plus pareil. Et c'est quand même ça le postulat de départ, c'est-à-dire qu'avec ce changement économique qui n'est pas le fruit d'une volonté politique, s'opèrent des changements politiques, par contre.
Oui.
Et dont ces changements politiques, c'est effectivement la désuétude du modèle contestataire habituel avec les syndicats et puis bon, tout,
les manifs.
Les manifs, les grèves, machin. Voilà. Ça ne fonctionne plus. Là, quand même, la dernière grève de la SNCF, ça a été une des plus longues.
Ouais, hein, Et une des plus suivies.
Elle n'a pas fonctionné du tout. Et c'est le Covid qui est venu mettre un terme à la réforme des retraites qui allait passer de toute façon.
Tout à fait.
Voilà. Donc,
on ne le dira jamais assez.
Voilà. Donc ça, je pense, c'est un truc, déjà, il faut être lucide, parce que si on est du corps révolutionnaire, ou même pas forcément, il faut quand même être lucide.
Il y a eu une autre grève qui a duré très longtemps et qui s'est soldée aussi par un échec, c'est celle des enseignants.
Oui, voilà. Bon. Ça sert oui, effectivement. Mais faut être lucide, ça sert à rien de se raconter des histoires. Pour moi, c'est un modèle qui est complètement désuet, mais bon, c'est pas de la faute des gens qui pratiquent ce modèle. Hein,
Ils n'ont pas les outils encore.
Voilà. Mais du coup, je pense que ce qui s'impose, en tout cas pour beaucoup de gens, et effectivement peut-être chez des plus jeunes, c'est le fait que la désuétude de ce modèle entraîne un rejet des méthodes traditionnelles de contestation et donc une baisse du nombre de syndiqués. Effectivement, le nombre de syndicalistes, ne serait-ce qu'à la CGT par exemple, est largement inférieur à ce qu'il a pu être durant les Trente Glorieuses. Et à l'inverse, les Gilets jaunes, pour moi, c'est vraiment un mouvement qui est symptomatique de cette nouvelle forme du capital. Et c'est un type de mouvement qui, à mon avis, va être amené à se développer dans le futur et auquel correspond le Black Bloc ou les autres formes de révolte populaire. Mais pour moi, on ne peut pas faire l'économie d'une analyse économique ou politique. Il faut faire de l'économie politique. Hein,
oui.
Pour conclure cette seconde partie de l'émission...
Brillante. Merci, Samuel.
Merci.
C'est gentil. Tu cerne le vrai découpage qui rassemble tous les autres, entre les Black Blocs et les syndicats, par exemple, ou l'État, par exemple, c'est le bon et le mauvais. C'est manichéen, quoi. Il y a un bon et un mauvais.
Ah, il y a un rapport positif. Hein. Moi, j'emploie le terme de positivité et de négativité. Oui. Mais oui, c'est exactement ça. En fait, l'ordre symbolique est producteur de positivité et de négativité. Et chaque acteur, chaque objet s'inscrit dans cette forme de positivité ou de négativité. Donc si on devait citer une forme de positivité, quand je cite le syndicat, ça peut peut-être que certains auditeurs ils comprennent pas, ils disent je comprends pas, moi les journaux ils nous tapent dessus à nous les syndicalistes, et après ils disent que le syndicat c'est une positivité. En fait, ce qu'il faut voir, c'est quand il y a des émeutes, quand il y a de la casse, quand il y a des soulèvements, très rapidement les médias ils reviennent, ils disent non, c'était bien les syndicats en fait,
tout à fait.
68 ils ont été bien.
Le 1er mai 2021 c'est l'exemple parfait, hein. Vous voyez, quand la CGT a été attaquée, on a des membres du gouvernement, on a des libéraux patentés qui honnissent les syndicats depuis 30 ans, qui sont venus dire non, quand même c'est inadmissible, on attaque la CGT, vous voyez. Avec tout le cirque que nous a fait la CGT, comme quoi c'était des gens d'extrême droite, alors que pas du tout. Mais ça c'est encore autre chose. Le dialogue social, les partenaires sociaux, c'est quelque chose qui a un rapport positif dans le discours politique dominant. Et après, dans les formes de négativité, il y a les jeunes des quartiers populaires, il y a les Black Blocs, il y a les islamo-gauchistes, les woke, la cancel culture, qu'est-ce que je peux vous dire
encore. Et tu oublies une catégorie de gens, ceux qui luttent contre les paradis fiscaux.
Ah oui, ça évidemment.
Parce que ça, c'est la vraie lutte économique.
C'est sûr qu'ils ne vont pas être dans une forme de positivité.
À leur égard.
Si tu le veux bien, on va écouter la deuxième pause musicale que tu nous as choisie,
oui,
Samuel, avant d'attaquer le dur, hein, c'est-à-dire dans la troisième partie de l'émission, tu élargis cette conception que tu as adoptée. Mmh.
Un peu d'avance, vous êtes bien sur Onde de Choc, Radio Libertaire bien sûr, 89.4, Onde de Choc, le dernier comptoir où l'on cause, l'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir. Eh bien, avec ce beau week-end de Pentecôte, on va entendre la voix, celle de Guy Debord, car la radio c'est aussi et surtout la voix, celle de Guy Debord, enregistrement de 1950-51, les environs de Fresnes.
Les environs de Fresnes. Participation de Guy Ernest Debord à une nouvelle culture radiophonique. Document pour une propagande terroriste. L'enregistrement intitulé Les environs de Fresnes est dédié à Serge Bernat de l'International Lettriste, actuellement détenu numéro 2797 au fort de Cormeilles en Parisie. On peut dire n'importe quoi ou dormir, les conséquences se ressemblent, mais le sommeil me plaît. Le bruit et le silence vont où ils veulent, les arts se font arbitrairement. Bien sûr, les auditeurs n'existent pas, c'est une illusion collective, comme Dieu quand il était à la mode. Nous n'avons rien fait que nous promener et de temps en temps parler dans le noir. Nous passons le temps. On peut tout dire. Quand l'avant-garde abolit l'écran, après traité de barre et d'éternité, film lettriste, voici l'anticoncept de Gilles Givolman, film qui s'intitule Expérimental. On le présentait lundi soir au Musée de l'Homme. Le principe de l'ouvrage, c'est simple, mais il fallait y penser. Vous supprimez l'image et vous gardez le son. Et quel son ? C'est fini le temps des poètes, assure le réalisateur. Ricanement, étranglement, borborique, monomatopée, emprunt au cours des halles, défilé de voyelles, de pronoms, de chiffres, fragments de conjugaison. Je me mouche, tu te mouches, donc nous sommes deux, et autres traits d'esprit assez. Le rôle d'information de la grande presse. Réponse au journaliste Robert Chazal, laudateur de Chaplin. Feu Chazal, tu as été mal inspiré de nous insulter pour défendre la dernière superproduction des artistes associés qui, comme chacun sait, te paye grassement. Nous avons par hasard pris connaissance à Bruxelles de cette preuve écrite de ta connerie permanente et décidé de casser ce qui te tient lieu de gueule sitôt que nous serons rentrés en France. Tu paieras pour les autres, dont tu as porté à la plus faisandée perfection la lâcheté conformiste et l'admiration publicitaire. Faux témoin, indicateur et probablement pédéraste, tu as assez bavé. Nous débarrasserons la presse française d'une de ses plus représentatives ordures. À très bientôt. Signé Jean-Louis Brault, Guy Ernest Debord, Gilles Givolman. Notre vie est un voyage dans l'hiver et dans la nuit. Monsieur J, d'où en sommes-nous avec le temps ? Le pianiste est mort sans nos regrets. Voici les fruits dont nous nous sommes nourris sur la terre, comme il disait. Voici les petites filles dont nous nous sommes nourris sur la terre. Nageurs morts, suivrons-nous d'Ahan la croisette vers d'autres nébuleuses. Elle a tant d'amoureux qu'elle ne sait lequel prendre. Les environs de Fresnes, je ne connais pas de plus beau titre métaphysique. L'histoire du cinéma est pleine de morts d'une grande valeur marchande. Jean-Michel dit, nous avons peint avec de la buée sur les vitres. Après, on efface et on recommence. Nous sommes de très grands artistes. Février 1953, Serge Bernat nous écrit « Fiche de police métaphysique. Debord moraliste par nécessité, sachant ceci, honteux que la nécessité ait ce caractère ignoble de nécessaire. Intrigant, sinon il perd, faible, triste et prend peur devant les choses comme un enfant devant son cauchemar. Debord se lève le matin et se dit « Aujourd'hui, je ne me suiciderai pas. » Cette communication de Serge Bernat a été censurée à cause de son manque de valeur apologétique. Octobre 1952, fini les pieds plats. Les feux de la rampe ont fait fondre le phare du soi-disant mime génial et l'on ne voit plus qu'un vieillard sinistre et intéressé. Go home, Mr. Chaplin. Les vérités qui n'amusent plus deviennent des mensonges. L'émission « Les environs de Fresnes » a été enregistrée à tout hasard en avril 1952 et en mars 1953. C'est la voix de Guy-Ernest Debord que vous entendez. Volman parlait. Bien sûr, la nuit tu rêves si tu pouvais toujours dormir, mais la vie menace. À chaque angle, il y a des flics et des indiques dans les bistrots. Les filles de ton âge sont marquées par la jeunesse. Ne quittez pas l'écoute. Vous allez entendre dans quelques instants un exposé clair de l'esthétique lettriste. Place Voltaire, place du commerce, nous connaissons tous les ponts, sans laisser de traces. Est-ce que vous connaissez la Hongrie? Je vous parle. En novembre 1952, Guy-Ernest Debord donne à son film cette préface. Notice pour la Fédération française des ciné-clubs. Éclaircissement sur le film Hurlement en faveur de Sade. Le spectacle est permanent. L'importance de l'esthétique fait encore après boire un assez bon sujet de plaisanterie. Nous sommes sortis du cinéma. Le scandale n'est que trop légitime. Jamais je ne donnerai d'explication. Maintenant, tu es toute seule avec nos secrets. À l'origine d'une beauté nouvelle. Et plus tard, dans le grand désert liquide et borné de l'allée des cygnes, tous les arts sont des jeux médiocres et qui ne changent rien. Son visage était découvert pour la première fois de cette enfance qu'elle appelait sa vie. Les conditions spécifiques du cinéma permettaient d'interrompre l'anecdote par des masses de silence vide. Tous les parfums de l'Arabie, l'aube de Vilaine, à l'origine d'une beauté nouvelle. Mais il n'en sera plus question. Tout cela n'était pas vraiment intéressant. Il s'agit de se perdre. Avril 1952, au Festival de Cannes, les lettristes mangent.
Ça travaille tout ça ?
Il n'y a pas de sucre.
Merde, il n'y a pas de sucre.
Il y a une petite sucre.
Tu veux pas manger sans sucre, ça ?
Si, mais
non, je ne peux
pas.
Tu veux pas manger de la confiture dedans ?
Ah oui, c'est très bon.
Bien sûr.
Ah oui, d'accord, c'est très bon.
Les intellectuels, tu sais pas. Alors, le confiture et le gourmand, je vous savais beaucoup. Pourquoi moi je mettrais de la confiture là-dedans alors que c'est sans sucre. Il me suffit d'impressionner le monde, politique d'intimidation.
Oh mais, quand c'est fondu, c'est bon.
De cette manière, il ne faudra pas.
Ah non.
Le pain est dur, le pain est chaud. Vous avez global.
Le repas,
Et là, on fait ça. Le nouvel art radiophonique sera fondé premièrement sur le parasite. Au bar du génie à la Bastille, à la maison Hostie, les lettristes refusent a priori et sans conversation possible toutes les raisons de vivre ou de mourir, de boire ou de ne pas boire, qu'on peut leur avancer. Les jeux que nous avons aimés, les mouvements de la parole, vont mourir dans leur dernier prestige. En avril 1952, Serge Bernat et Guy-Ernest Debord se promènent parmi les débris de l'ancienne poésie, en détraquent les mécanismes pour qu'elles ne soient plus que les réponses ou les demandes, également dénuées d'importance du dernier dialogue acceptable.
Binaire, ta avis des voies lactées. Ta viva obid. Ta vie déteste. Et le rêve de ta vie que le vide.
Voies lactées aux sœurs lumineuses des blancs ruisseaux de Canaan et des corps blancs des amoureuses.
Mais le vide est venu à ta vie.
Nageurs morts, suivrons-nous Dahan ton cours vers d'autres nébuleuses.
Le voile énorme ne l'a pas repoussé. Il n'a pas pu repousser le voile énorme, il n'a pas pu.
Regret des yeux de la putain est belle comme une panthère, est belle comme une panthère, est belle comme une panthère.
À 10 ans, il avait 60 ans. Ses parents lui parurent schienen seine Eltern als wie des enfants à 5 ans. Il se perdait dans la nuit.
Amour, beau baiser florentin avait une saveur amère qui a rebuté nos destins.
Puis, il s'est oublié dans une fourmi. Il s'est oublié dans une feuille, il s'est oublié dans l'ensevelissement de l'enfance.
Ses regards laissaient une traîne d'étoiles dans les soirs tremblants. Dans ses yeux nageaient les sirènes.
Tahavi n'a pas trouvé son père, Tahavi n'a pas trouvé son père, Tahavi n'a pas trouvé son père, Tahavi n'a pas trouvé son père. Père dans les
et
larmes
nos baisers mordus
des hommes.
Sanglants, et nos baisers mordus sanglants, et nos baisers mordus sanglants faisaient pleurer nos fées marraines.
N'a pas accepté ta vie, n'a pas accepté ta vie, ayant reçu, n'a pas gardé par la porte, par la fenêtre, ta vie par la porte, par la fenêtre a rejeté, il a vomi.
Mais en vérité, je l'attends avec mon cœur, avec mon âme.
Par la volonté appuyée sur le souffle, par la pensée sans souffle, par son démon, ta vie a rejeté.
Et sur le pont des revient-temps, et sur le pont des revient-temps, si jamais revient cette femme, je lui dirai je suis content.
Ta vie a rejeté.
De Paul-Henri Michuard, l'amoureuse repos dans le malheur.
Elle est debout,
le malheur,
sur mes paupières,
mon grand laboureur,
et ses cheveux,
le malheur,
sont dans les miens.
Assieds-toi,
elle a la forme,
repose-toi,
de mes mains.
Reposons-nous un peu, toi et moi.
Elle a la couleur,
repose,
de mes yeux.
Tu me trouves.
Elle s'engloutit.
Tu m'éprouves.
Dans mon ombre.
Tu me le prouves.
Comme une pierre.
Je suis ta ruine.
Sur le ciel.
Mon grand théâtre.
Elle a toujours.
Mon art.
Les yeux ouverts.
Mon âtre.
Et ne me laisse pas.
Ma cave d'or.
Dormir.
Mon avenir.
Ses rêves.
Ma vraie mère.
En pleine lumière.
Mon horizon.
Font s'évaporer.
Dans ta lumière.
Les soleils.
Dans ton ampleur.
Me font rire.
Dans ton horreur.
Pleurer et rire.
Je m'abandonne.
Parler.
Et plus tard, dans le grand désert liquide et borné de l'allée des cygnes, son visage était découvert pour la première fois de cette enfance qu'elle appelait sa vie. Simplement des voyageurs pressés entre deux gares. Le pont Sully, l'ancienne guide de la 141e Paris,
Paul-Henri Michuar, au cœur de mon amour, dans la nuit. Dans la nuit.
Un bel oiseau.
Dans la nuit.
Me montre la lumière.
Je me suis uni à la nuit.
Elle est dans ses yeux.
À la nuit sans limite.
Bien en vue.
À la nuit.
Il chante.
Ce sera pour une autre planète.
Au milieu du soleil.
Mienne.
Les yeux des animaux chanteurs.
Nuit.
Et leur chant.
Nuit de naissance.
De colère ou d'ennui.
Qui m'emplit de mon cri.
M'ont interdit.
De mes épis.
De sortir de ce lit.
Toi qui m'envahis.
J'y passerai ma vie.
Qui fait houle, houle.
L'aube dans des pays.
Qui fait houle tout autour.
Sans grâce.
Et fume.
Prend l'apparence.
Effort dense
de l'oubli.
Mugit.
Et qu'une femme émue s'endorme.
Est la nuit.
Allô.
Nuit qui gît.
La tête la première.
Une nuit implacable.
Sa chute l'illumine.
Et sa fanfare. Et sa plage.
Vous connaissez.
Sa plage en haut.
La forme de sa tête.
Sa plage partout.
Ici, tout s'obscurcit.
Sa plage boit.
Le paysage se complète.
Son poids est roi et tout ploie sous lui.
Sang ou joue.
Sous lui.
Les masses diminuent.
Sous lui. Dénue.
Et coule dans mon cœur.
Sous lui.
Avec le sommeil.
Sous la nuit.
Et qui donc veut
la nuit
me prendre le cœur
sous lui. Évident que ce qui précède.
Je l'ai vu couvert d'une cuirasse, couvert ses lobes, c'était le ciel pur.
Alors mon cher, il faut un titre vite, un titre.
Couplet de la rue du tombeau.
Auquel le grammairien d'aucune langue n'aura rien à dire.
Depuis qu'André Platard l'a quitté.
On veut de nouveaux sons, de nouveaux sons, de nouveaux sons.
Quand il buvait un verre.
On veut des consonnes sans voyelles.
Ces ruines sont situées sur les bords d'un fleuve sinueux.
Parfaitement, des consonnes qui pètent sourdement.
Une à une agonie harmonieuse et multiple.
Imitez le son de la toupie.
Clopin clopant s'en allait des aveugles.
Le raclement aspiré du crachement ferait aussi une belle consonne.
Heureux s'il suffisait pour se faire aimer d'elle.
Servez-vous du bruit sourd de celui qui mange sans civilité.
Un peu profond ruisseau calomnier la mort.
De divers pélabiaux rendraient aussi vos discours claironnants.
Elle défunte nue en le miroir encore.
La mère de la concierge et la concierge laisseront tout passer.
Le noir roc courroucé que la bise le roule.
Si tu es un homme, tu m'accompagneras ce soir.
À l'autre au sein brûlé d'une antique amazone.
J'aurai dégusté lentement et tout seul pendant de longues soirées le toquet.
Mal tu par l'encre même en sanglots sibyllins.
Que de cœur dans Orcenise les gardes riaient. Va nous fier la route grise, l'amour grise au charretier.
Ainsi qu'une joyeuse et tutélaire torche.
Sur le boulevard de Grenelle, les ouvriers et les patrons, arbre de mai,
roulent dans cet ennui des feux vils pour témoins.
L'amour est mort entre tes... Merde. Ah, merde. L'amour est mort entre tes... L'amour est mort entre... Oh, puis non, je renonce. Vas-y.
Le sépulcre de tes aveux.
J'ai les yeux d'un vrai veau marin.
Sous un marbre lourd qu'elle isole,
ne s'allume pas d'autre feu que la fulgurante console.
Édité chez Gallimard, 1945.
Le cri des gloires qui l'étouffe.
C'est la fête de Saint-Olaf.
Moi, j'ai ta chevelure nue pour enfouir mes yeux contents.
Gaspard, je songe à Gaspard. Ce n'est certainement pas son vrai nom.
Dans l'éclaboussement des chutes impossibles.
Mais j'avais la conscience des éternités différentes de l'homme et de la femme.
Montez les marches de la brume, nous approchons.
Deux animaux dissemblables, ennemis s'aimaient à couteau tiré.
Pour qu'un seul baiser la retienne.
Elle tenait à la main un fourreau.
Fuit une foule de grains, fuit la flamme et la fraîcheur, plus fort que le ciel lointain.
À lui, il s'était vu légué par Dieu un poignard affûté.
Que la beauté de l'homme est plus grande que ton espoir est vivant.
Toujours nous irons plus loin sans avancer jamais.
Que voulez-vous, la nuit était tombée.
Où est le perdu, où est la vie pour trouver la victoire?
Et par le pouvoir d'un mot.
Entends-moi.
Noué, rouillé comme un falot et caotant comme un éclair, le coin réserve sa saveur.
L'on a dit que Serge Bernat était une crapule, une crapule, une gouape, gouape.
En quête d'une végétation nouvelle. Je connais gens de toutes sortes, ils n'égalent pas leur destin. Leurs yeux sont des feux mal éteints, leur cœur bouge comme leur porte. Février 1953, manifeste pour l'international lettriste. La provocation lettriste sert toujours à passer le temps. La pensée révolutionnaire n'est pas ailleurs. Nous poursuivons notre petit tapage dans l'au-delà restreint de la littérature et faute de mieux. C'est naturellement pour nous manifester que nous écrivons des manifestes. La désinvolture est une bien belle chose, mais nos désirs étaient périssables et décevants. La jeunesse est systématique, comme on dit. Les semaines se propagent en ligne droite, nos rencontres sont au hasard, et nos contacts précaires s'égarent derrière la défense fragile des mots. La terre tourne comme si de rien n'était. Pour tout dire, la condition humaine ne nous plaît pas. Nous avons congédié Isou, qui croyait à l'utilité de laisser des traces. Tout ce qui maintient quelque chose contribue au travail de la police, car nous savons que toutes les idées ou les conduites qui existent déjà sont insuffisantes. La société actuelle se divise donc seulement en lettristes et en indicateurs, dont André Breton est le